pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Place de la République, chaque lundi ou presque, ce sont des lieux emblématiques de notre République. Un lycée à Auxerre, un hôpital dans la Drôme à Die, une caisse d'allocation familiale à Amiens ou un tribunal à Marseille. Sur cette place de la République, depuis 22 semaines, on regarde comment ça marche, ce qui déraille, là où ça se grippe, ce qui avance, comment se fabrique ou pas notre démocratie, la redistribution des richesses, la lutte contre les inégalités, la fraternité, l'exercice de notre liberté. On observe aussi comment les agents de la République exercent leurs fonctions et construisent ou pas une idée du service public. Un service public au service de quoi? Pour représenter ou défendre les intérêts de qui? Ce sont les questions que nous posons en filigrane de ces récits déroulés au fil des semaines. Aujourd'hui, ce sont trois personnes emblématiques que nous retrouvons ou découvrons. À la CAF d'Amiens, nous ferons connaissance avec un contrôleur conseil chargé de lutter contre la fraude en tout genre, fausses déclarations, trop perçues, etc. On verra s'il est, comme l'explique le site de la CAF, je cite, un élément essentiel de rigueur dans la gestion des fonds publics et d'égalité entre les citoyens. À l'hôpital de Die dans la Drôme, en attendant de savoir ce que deviendra la maternité, vous allez y découvrir un personnage quasi mythique dans le service, patiente puis agente, surnommée à juste titre la muette. Mais tout de suite on retrouve Laurette, bien connue des auditeurs de Place de la République, la seule fille de la section arbitrage au lycée polyvalent Joseph Fourier à Auxerre dans l'Yonne. Nous l'avions rencontrée dès le premier épisode de notre série et nous l'avions suivie un soir à l'internat, puis dans ses doutes, dans ses secrets et autres considérations politiques plus ou moins dérangeantes. La voici 6 mois plus tard, à la fin ou presque d'une année scolaire, un tour de cadran, une période charnière, un moment crucial dans son existence comme dans celle de la France. Laurette, future arbitre de France, c'est jusqu'à 14h, Place de la République, 22e épisode, un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Rémi Douatte, réalisé par Cécile Lafont.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Les élèves, en fait, nous arrivent un petit peu toute l'année, de toutes les nationalités.
Je veux envoyer l'argent à ma famille pour les aider. C'est pour ça que je suis venu en France, pour être comme les autres.
Alors, ce que je trouve, c'est qu'on ne parle pas suffisamment de la mort.
C'est pas traité aujourd'hui, madame, parce qu'on a 6 semaines de délai de traitement.
On est tous pareils, monsieur. On est tous dans la
même. Je me mets à la place des gens et je me dis que ça pourrait m'arriver du jour au lendemain. Je peux pas laisser des gens comme ça.
Lycée Fourier, bonjour.
On va où, là?
On va dans l'internat.
Ah, vous avez pas d'entraînement aujourd'hui?
On n'a pas d'entraînement ni de compétition.
Repos.
Voilà, c'est ça, repos.
Coucou toi, ça va?
Oui, toi.
Ouais.
Donc voilà, on a changé de chambre. Enfin, j'ai changé de chambre parce que Iseline se levait tôt le matin. C'était pas gérable. Avec les entraînements de sport, je peux pas cumuler. Donc je reste toute seule, je suis dans une chambre. Et bon, on fait souvent copinage, quoi. Enfin... Elles viennent souvent, genre, là, Iseline, elle est pas là, donc Flavie, ce soir, elle va venir dormir vers moi, quoi.
Quelles sont les nouvelles?
Je me suis tapée dans l'armoire, donc avec un bout de fer pour mettre... En fait, on a un bout de fer qui dépasse de l'armoire pour pouvoir mettre le cadenas, et je me suis tapée la main dedans. Donc voilà, je suis allée à l'hôpital pour passer une radio et puis pour voir si rien n'était cassé. Mais j'ai un gros hématome, mais rien de méchant.
Et ton genou, comment ça va?
Bah, mon genou, ça va, c'est réparé. J'ai juste une belle cicatrice de la blessure que je m'étais fait au mois de septembre. C'est là. Ça descend là sur le côté, mais j'ai plus mal. Donc ça va, heureusement. Je suis en train de faire mes devoirs parce que je m'avance pour la semaine prochaine vu que j'ai un match ce week-end. Un match d'arbitrage. J'ai pas peur parce que maintenant c'est l'habitude, quoi, c'est le rituel. Voilà, j'ai pris en assurance et puis bah l'école m'a permis de d'avoir confiance en moi, donc. Bah je sais qu'au début, avant de rentrer sur le terrain, ils sont beaucoup en train de parler entre eux et de rigoler. Et je sais très bien que ça parle de moi, enfin parce que déjà ils sont impressionnés que ça soit une fille. Et puis bah ils se disent bon bah elle on va pouvoir la taquiner quoi. Que ça marche pas quoi, parce que je me laisse pas faire. Voilà, au début ils rigolent et puis après sur le terrain les premières fois ils font bah quelques fautes les premières minutes et quand ils voient que je réagisse ils s'arrêtent direct. J'ai plus d'autorité sur le terrain, je parle à mes joueurs. Faut pouvoir parce que tous les arbitres ne parlent pas aux joueurs et puis il y en a ils préfèrent faire au coup de sifflet pour ça c'est une façon de parler. Moi je préfère parler sur le terrain. Puis pour montrer que je suis présente et que j'ai vu la faute, bah je leur dis j'ai vu comme ça ils voient que je suis là et ils se disent bon bah faut pas qu'on continue quoi. Bah moi c'est vrai que je trouve ça vraiment bien quand je vois que ça me respecte parce que du coup par derrière bah tout le public est respectueux. C'est vrai que bah, c'est bien, quoi, parce qu'au moins, on passe un bon match. Et du coup, j'ai eu un match où ça s'est très mal passé. C'était à Genlis, donc un village pas très loin de chez moi. Et en fait, l'entourage me gueulait dessus.
Et toi, comment t'as réagi ?
Bah, moi, j'ai pas réagi parce que bah, déjà, c'était ma première année, donc j'étais pas encore trop sereine sur le terrain. Mais mon papa était à mes côtés, donc il m'a aidée. Et puis voilà, quoi, ça s'est bien passé après. Bah, en fait, il est passionné de football comme moi. Donc voilà, mon papa, c'est vrai que j'aime bien l'avoir à mes côtés. Quoi. Je sais que bah, déjà, je me sens rassurée parce que mon papa, c'est mon tout. Donc c'est mon tout. C'est tout pour moi, mon papa. Il m'a suivi partout pour mes matchs. Et du coup, ça fait déjà 3 ans maintenant qu'on est abonné à ODFCO. Donc une grosse équipe professionnelle et depuis bah c'est un rituel de pouvoir le foot c'est dans la peau. Ce week-end on est parti à Marseille pour suivre cette équipe là. On est un groupe de supporters donc on s'appelle les Téméraires et en fait on fait des bus et on fait quelques déplacements des fois pour pouvoir être avec eux. Et dans 2 semaines je pars à Monaco. Pour aller voir pareil un match du DFCO, Monaco-DFCO. On part à 6h du matin pour pouvoir arriver au match vers 16h. Donc ça nous fait du 14h de bus.
Vous êtes motivés, hein ?
Ah oui, on est très très motivés. Bah, quand c'est le foot, on est toujours motivés. Hein. Et c'est vrai que bah, y a beaucoup de filles qui... Maintenant, le foot féminin, ça commence à se développer. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes aiment le foot, quoi. Et c'est plus joli de voir un match de foot féminin que masculin. Pour moi, je trouve que c'est plus joli à regarder. Donc, bon, après, des fois, je sais que ma maman est venue aussi me voir à des matchs. Et c'est vrai que les fois où elle est venue, elle a toujours été impressionnée parce qu'elle a dit « Ouais, t'es vraiment belle sur le terrain, quoi. » Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Elle a trouvé que, bah, ouais, je montrais mon autorité. Donc, voilà, c'était plus intéressant de voir ça que de voir... de me voir en train de courir après un ballon, quoi. Donc, alors le vêtement, c'est bah, crampons sombres, chaussettes noires, normales, shorts d'arbitrage avec des poches pour mettre les cartons jaunes, rouges et blancs dedans. Et après, moi, je suis en queue de cheval et natte sur la queue de cheval pour pas être gênée par mes cheveux.
Maquillée ?
Non, pas maquillée, bah normal quoi, juste du mascara, mais c'est du rituel quoi. Ouais, bah c'est vrai que j'aime bien me montrer un peu féminine quoi. Puis je me suis fait des ongles, donc c'est déjà des ongles faits et puis il faut les coller. C'est moi qui les ai collés. Ouais, bon ça se décolle hein, des fois. Des fois faut les recoller quoi.
T'es tombée amoureuse ?
Non, je ne suis pas amoureuse, et puis c'est très bien comme ça. Parce que bah j'ai des études avant, donc non. Bah je suis dans cette école, mais bah, c'est pour le travail, c'est pas pour l'amour, quoi. Hein, Flavie ? On n'en parle pas trop, des garçons. Ouais, non, franchement, ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses, mais ça, on y fait... Non, on n'y fait même pas attention. On s'en fout un peu, quoi.
De quoi
on a le temps. Et puis, ouais, nous, c'est vrai que bah, on est là, c'est pour bosser, quoi. On est à l'internat, c'est pour une raison. Donc, voilà, on garde cette raison. Ça rigole pas.
Hôpital de Dieu, bonjour.
Donc, je suis docteur Noël Valérie, je suis médecin gériatre sur l'hôpital de Die. Et j'ai bien connu la muette, effectivement, qui logeait à la maternité de Die.
Oui, il y avait une muette qui habitait dans la maternité. Donc
forcément, depuis toutes les nouvelles qui arrivent, on parle de la muette.
Alors, de temps en temps, ouvrez la porte de la chambre brusquement.
Et donc, la chambre de la muette.
La chambre de la muette, c'est ça. Ouais, c'était ça.
C'est une chambre de 2 mètres carrés sur... Sur 3.
Alors, tu me disais, quand tu es arrivée ici, on t'a transmis...
ici, on m'a transmis une histoire d'une personne muette qui travaillait ici et qui hantait encore un peu les murs. Donc du coup, je ne sais plus quel oxy m'avait fait le gag. Genre, en faisant le ménage dans le couloir, je me suis rendu compte que le cadre avait bougé en fait. Le cadre d'un tableau. Et forcément, on m'a dit, mais c'est normal, c'est la muette. Et puis voilà, et puis maintenant, je bosse avec la muette quand je fais les nuits.
Effectivement, il y a un trombinoscope dans le bureau du chef de service où il y a la photo d'une dame où il y a marqué la muette, cœur de la maternité.
C'est vrai,
mais alors, qui était la muette, Agnès, vous qui êtes sage-femme?
Elle est arrivée en 1944. À la maternité. Elle est venue. Donc, c'est une dame qui était née en 1913 et qui est arrivée à la maternité de Die pour accoucher. Ici, c'était des sœurs hein, qui tenaient l'hôpital. Dans ce qu'on m'a raconté, après, voilà, on ne sait pas toujours tout. Elle aurait eu des jumelles qui seraient décédées à la naissance ou voilà. Je pense que les sœurs l'ont gardée. Est-ce qu'ils avaient un doute sur qui était le père? C'est parler peut-être d'inceste, de choses comme ça, quoi, voilà.
L'histoire de son fils aussi.
Et quand elle était venue accoucher de ses jumelles, en fait, elle est venue avec un petit garçon de 2 ans. Et qu'elle est venue accoucher et que son petit garçon lui a été retiré. Sous quel prétexte? Je pense que du moment qu'elle était sourde des muettes, on devait la considérer comme mentalement attardée, et voilà, alors que ce n'était pas du tout le cas, quoi. Et du coup, elle y est restée. Elle a accouché ici, elle y est restée. Et du coup, jusqu'en 99, où elle est partie de la maternité, elle a vécu à la maternité. Donc elle avait une petite chambre au cœur de la maternité. Et il faut savoir, donc elle est arrivée en 1944, elle a accouché ici, et après elle a travaillé, donc à l'époque avec les sœurs, bien sûr on n'a pas connu, hein, non, trop jeune, mais avec les sages-femmes qui ont suivi, elle a travaillé avec elle. C'est-à-dire, elle faisait le rôle que fait Tine, par exemple. Elle faisait le rôle d'aide-soignante, le rôle d'auxiliaire. Elle se levait le matin jusqu'au soir, et ben elle faisait tout dans la maternité, le ménage, s'occuper des mamans, des bébés, etc. Et elle était capable, quand on regardait les monitoring, de nous dire l'air de dire c'est bon là, elle va accoucher et tout. En fait, elle avait une perception des choses, de savoir quand la femme allait accoucher ou pas, et elle se trompait rarement en fait. Hein. C'était assez rigolo parce que c'était un sacré phénomène quand même. Et même parfois, toute nouvelle qui arrivait, que ce soit moi ou des auxiliaires de Sacha, quand on ne savait pas où se trouvaient les choses, on appelait la muette, hein. Elle venait nous montrer, elle nous expliquait, je veux dire, elle nous a beaucoup rendu service aussi pour connaître un peu la maternité, quoi, en fait.
Elle a aidé à la maternité, moi je l'ai connue, où elle s'occupait des bébés.
Ouais.
Donc après, bon, avec une certaine... certaines façons de faire, elle était un petit peu, on ne peut pas dire brutale, mais elle était... Ouais, ses enfants ont redit qu'ils étaient à elle, en fait, quand elle s'en occupait. Donc je pense qu'elle avait un grand vide en elle. Voilà, c'était quelqu'un d'assez doux, en fait. Elle avait besoin d'être apprivoisée. Je pense qu'elle n'a pas eu une enfance facile et une vie facile. Et que j'ai pris en charge en tant que médecin gériatre, parce qu'elle avait des pathologies médicales. Donc j'ai appris à la connaître comme ça. Elle se laissait pas, elle était très sauvage au départ, elle se laissait pas approcher, il fallait vraiment gagner sa confiance. La communication était bien sûr pas facile, hein, puisqu'elle avait pas le langage des signes et moi non plus.
Nous on l'appelait muette, alors quand on dit muette c'est pas péjoratif, hein, c'est pas une critique, ça, on l'a toujours appelée comme ça, mais son prénom c'était Josette quand même, à dire quand même. Et tout le monde la connaissait dans le Diwa sous le nom de Muette, quoi, en fait. C'était... Et c'est vrai qu'elle était très connue, c'est-à-dire que même les femmes, quand, moi je me rappelle quand elle venait accoucher, ah, il y a la muette, ah, bah, elle était là quand je suis née. Ouais. Mmh. Bah, depuis 1944 jusqu'en 1999, elle a vu tous les Diwa naître. Donc, tant qu'elle est restée à Di et qu'on n'avait que des Diwas qui accouchaient à Di, je pense qu'elle faisait partie des murs, elle faisait partie du personnel. Et après, progressivement, on a eu des femmes qui venaient de l'extérieur de Di, Cray, aux alentours, qui venaient accoucher. Là, ne comprenait pas pourquoi il y avait une personne âgée dans le service. Et ça a commencé un petit peu à créer des, pas des tensions, mais des problèmes, quoi, en fait. On a eu des réflexions. Ah, mais une personne âgée qui est là, qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis comme, justement, elle faisait beaucoup de bruit, c'est vrai que ça choquait, je pense, ça choquait des personnes qui n'étaient pas au courant de son histoire, qui n'étaient pas au courant qu'elle était là, quoi. Et à un moment donné, en 99, quand il y a une restructuration au niveau des chambres, bah, ça a été l'occasion de... Enfin, l'occasion. Pour nous, ce n'était pas l'occasion, mais c'était une façon de dire, à un moment donné, tu ne peux plus être là, il faut que tu ailles en maison de retraite. Mais elle ne voulait pas y aller. C'est-à-dire, quand on lui disait que tu es en maison de retraite, elle nous faisait le signe de croix, et en nous disant, moi, je ne veux pas y aller, est-ce que signe de croix, ça veut dire que pour elle, ça va là-bas, elle allait mourir. Bon, cela dit, elle y a vécu encore presque 10 ans, je pense, hein, parce que elle est morte à 93 ans.
Et on a pu lui faire vivre un moment magnifique pour elle, parce qu'elle, la petite fille de la muette, a retrouvé sa trace par un certificat de naissance. Et voilà, de fil en aiguille, avec l'aide d'une psychologue, on lui a parlé de ce fils qui souhaitait la rencontrer. Et on a organisé la rencontre et il a pu voir sa mère pendant 2 ans, avec petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je me souviendrai toujours quand on lui a dit que son fils était vivant et qu'il souhaitait la rencontrer. Elle a fait signe qu'elle prenait un enfant dans ses bras. Voilà, c'était très beau. Mais c'était une bien belle histoire pour nous. Ouais. Ça ne se verrait plus, c'est sûr.
C'était un personnage. C'était un personnage et elle faisait vraiment partie de la maternité. Elle fait partie de l'histoire de la maternité. Quoi. Je pense que ça ne peut plus exister, ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne peut plus exister. Ça passerait plus parce qu'il parlerait d'hygiène, il parlerait de ceci, de voilà, c'est quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi, je veux dire. C'est sûr, ça pourrait plus exister, je pense.
Bonjour et bienvenue à la caisse d'allocation familiale.
Au bon point, prenez la troisième sortie, rue Lucien Lecointe.
Voilà, nous allons à un quartier d'Amiens-Nord, rue Messager. Donc c'est une cité d'Amiens. C'est une cité où on essaie de venir quand même assez tôt le matin. On peut pas dire que c'est une cité un risque, mais bon, il ne faut pas trop déranger à certaines heures de la journée. Donc on essaie de venir avant 10 heures.
Ils savent qui vous êtes en fait quand vous arrivez dans la cité?
Non, non, non. Bon, il y en a qui disent comme quoi on a le profil de contrôleur, qu'on nous repère de loin. Bon, je sais pas comment ils peuvent justifier de ça, mais... Voilà. Alors, nous allons contrôler une famille d'allocataires, bénéficiaires du RSA. Donc, l'objet du contrôle, c'est une simple vérification de la situation familiale et professionnelle. Dans le cadre de versement du RSA, nous sommes sur un système déclaratif. Donc les personnes font une déclaration tous les trimestres sur leur revenu, leur situation. Et de temps en temps, on est censé vérifier si les situations sont conformes et si les revenus déclarés sont conformes à la réalité. Et donc je suis contrôleur depuis maintenant 12 ans. Nous faisons à peu près 400 contrôles par an par contrôleur. Donc on peut faire à peu près 12 000 km par an dans le cadre de notre activité. Le premier métier du contrôleur, d'abord, c'est croiser les fichiers. Nous avons donc beaucoup de logiciels mis en commun pour vérifier la concordance des déclarations. Après, nous avons les partenaires comme les impôts, la caisse primaire d'assurance maladie, les mairies, l'URSSAF. Voilà, après, en fonction de ce que les croisements, on va pouvoir détecter éventuellement une anomalie, ce qui va orienter ensuite notre contrôle.
Il y a beaucoup de fraude à Amiens?
C'est difficile à dire, on estime au niveau national à 2-3% la fraude.
Destination atteinte.
C'est Monsieur Hervil, la CAF. Un métier, il faut être un peu sportif. Hein. On a beaucoup d'étages à monter chaque jour.
Monsieur Hervil, porteur de la CAF.
Oui, allez-y.
Alors madame, l'objet du contrôle, c'est une vérification de votre situation familiale et professionnelle dans le cadre du versement du RSA. Hein.
D'accord.
Alors pour commencer, j'aurais besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, est-ce que vous pourriez m'indiquer quelle est votre situation familiale?
En couple, mais on ne vit pas ensemble en fait.
Vous êtes en couple, sans exception, avec quelle personne?
Monsieur Yassine.
D'accord. Ce monsieur réside où actuellement?
À Paris.
Il réside à Paris. Il est quoi, locataire, propriétaire?
Non, il est en colocation.
En colocation. Vous envisagez une vie commune prochainement?
Oui.
Dans un délai de combien de temps?
On va dire d'ici la fin de l'année.
Est-ce qu'une tierce personne fait domicilier son courrier ici?
Non plus.
Donc, est-ce qu'une personne vient souvent vous voir et peut être considérée par les voisins comme étant votre compagnon?
Bah oui, monsieur Denis.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir également un justificatif de son domicile, s'il est en colocation, une quittance de loyer, quelque chose?
Je lui demanderai. Oui, je lui demanderai.
Alors, vous êtes connu du service comme ayant 3 enfants à charge?
C'est ça, oui.
Alors, je vais regarder le livre de famille. Donc, le père de lycée, monsieur. Sinon, c'est ça.
C'est ça, oui.
9. Est-ce que ce monsieur vous verse une pension alimentaire?
Du tout.
Alors, les autres enfants. Donc, c'est monsieur Guessant. Alors, est-ce que ce monsieur vous verse, lui, une pension alimentaire?
Non plus, il est au RSA.
En ce qui concerne votre situation professionnelle, que faites-vous actuellement?
Alors, j'ai dû arrêter depuis le 26 mars 2016 mon activité professionnelle pour m'occuper à temps plein de mon fils qui est autiste. Donc, je ne peux plus travailler pour l'instant.
Est-ce que vous avez vos bulletins de salaire pour 2015 et 2016, s'il vous plaît?
Alors, 2015 et 2016. Là, c'est pour janvier, février et mars 2016.
Donc, au titre du mois de janvier, vous avez perçu un salaire de 361 euros plus un acompte de 150 euros. Pour le mois de février, il y a eu un salaire de 338. Et pour le mois de mars, une rémunération de 418 plus un acompte de 210. En 2016, vous avez des salaires pour 1916 euros. Donc ça c'est bon, c'est bien été déclaré, c'est conforme. Est-ce que vous avez des comptes de placement?
Non, du tout.
À ma connaissance, vous avez un livret A à la poste.
Il y a une toile qui a été fermée.
A priori, il est toujours existant. On a accès à l'ensemble des comptes bancaires, bon, savoir s'ils sont toujours ouverts ou non.
D'accord.
Apparemment, ce compte livret A à la poste est toujours actif. Vous avez également donc à la poste pour demander un justificatif. S'il est toujours ouvert, il faut que je puisse avoir le solde de ce livret A.
D'accord.
Hein, si vous les fermez, qu'il fasse une attestation avec la date de clôture.
D'accord.
Donc, je vais noter sur un petit carton l'ensemble des documents à me faire parvenir.
D'accord.
En sachant que normalement vous avez un délai de 10 jours pour me les faire parvenir. À l'issue de ce délai, si les documents ne sont pas adressés à la CAF, il y aura normalement une suspension du versement de vos prestations.
Ok, ça marche. Je les mets directement dans une enveloppe et je vais l'amener là-bas, c'est ça?
Tout à fait.
Ok, ça marche.
Je ne vais pas vous déranger plus longtemps.
Hop. Merci beaucoup.
Madame.
Bonne journée.
À vous de même.
Merci. Au revoir.
Je veux dire que c'est en 90% des cas, c'est le genre de contrôle qu'on fait. C'est des gens dans cette situation très très précaire. Hein. Hein, personnes isolées, plusieurs enfants, de pères sont différents. C'est vrai que cette personne-là, je m'étais déjà vérifié, je savais qu'elle avait déjà une liaison avec M. Ni, dont elle nous a parlé, donc apparemment, elle ne cache rien.
On a bien compris que le monsieur en question, il a pas la nationalité française. Il est certainement hébergé par des connaissances.
C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle m'apporte la preuve. Elle me dit qu'il est en colocation. Je veux quand même savoir où il réside.
Mais qu'est-ce que ça change que monsieur Ni soit présent chez cette dame?
Ça remet en question son droit à l'ASF, tout simplement. La caution secteur familiale, c'est à peu près 90 euros par enfant. Donc ça ferait 270 euros au total de droits qu'il ne devrait pas être versé. Voilà. Donc ça, sur X dossiers par jour, ça, fin d'année, ça représente des sommes. Je sais qu'à peu près, pour mon cas personnel, je suis à peu près, l'année dernière, j'ai eu à peu près 600 000 euros de trop perçus. Hein. Le système sélectionne tous les mois un panel de dossiers à risque potentiel.
Et la dame qu'on vient de voir, elle était à combien donc dans l'échelle du risque ?
On ne sait pas du tout. On ne sait pas. On ne sait même pas sur quel élément le système a détecté un risque.
Mais c'est qui ce système ?
C'est un logiciel. C'est un logiciel qui, en fonction de l'ensemble des prestations versées, la situation de la famille, dit éventuellement il peut y avoir un risque. Il ne dit pas qu'il y a un risque, qu'il peut y avoir un risque.
Voilà. Il fonctionne bien ce logiciel ?
On se pose la question parfois, effectivement, quand il y a certains dossiers où on va faire le contrôle et on ne voit aucune anomalie, on se demande effectivement quelle est la pertinence par moment de ce logiciel. Nous allons changer de secteur, nous allons partir de l'autre côté d'Amiens pour contrôler une personne qui est censée être célibataire avec deux enfants à charge. De temps en temps, sur certains dossiers, on vérifie notamment les réseaux sociaux. Hein, c'est ce que j'ai pu faire sur ce dossier-là. Et sur les réseaux sociaux, on peut constater que madame présente, se déclare en couple, a priori, avec le père des enfants. Donc, est-ce que c'est juste une relation ? Est-ce qu'ils vivent vraiment ensemble ? Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments pour le déterminer. Donc, j'attends l'entretien pour pouvoir prendre une décision éventuelle.
Vous êtes un enquêteur, en fait ?
Un petit peu, ouais. Un petit peu. Hein, contrôleur conseil. Le premier mot, c'est contrôleur.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, place de la République, 22e épisode, un reportage de Pauline Maucor, Olivier Minot et Rémi Douatte, réalisé par Cécile Lafont. Merci à Laurette, merci à l'hôpital Latine, à Agnès, au docteur Noël, à Marie et à Francine. Et pour la CAF, merci à Christophe Hervy, à Karine Corme et à Virginie. C'est Sandrine Chaperon, l'attaché de production des Pieds sur Terre, aux commentaires, des réactions, des suggestions, des partages, des likes, des tweets et des retweets. Et sur les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.